WhatsApp
06-62-10-98-60.
É o novo número WhatsApp da rádio que nos liga. WhatsApp,
a sua voz na Rádio Alfa.
Passagem de nível com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous, c'est dimanche 29 janvier, passager niveau en votre compagnie jusqu'à 14h, émission qui est une rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 0h. Voilà le menu. On va commencer par parler dans la situation dans le secteur de la santé en France, d'autant plus que la réforme des retraites, ça risque de compliquer les choses parallèlement. Situation difficile dans les services d'urgence, ainsi en Metz, à Thionville, apparemment 2 morts par jour en salle d'attente des urgences. Un thème qu'on ira débattre avec le porte-parole de la coordination de vigilance du GHU, Henri Mondor, Albert Chenevier, Émile Roux, docteur Fabien Cohen. Après, on va parler de l'augmentation de l'énergie. Alors, comment est-ce que les mairies font face à cette situation-là? Et dans la grande banlieue, difficulté avec les transports, un moment où Madame Pécresse annonce la privatisation de la RATP. Après, on parlera avec une députée socialiste portugaise, Nathalie d'Oliveira, qui veut un monument à Paris pour signaler justement l'arrivée des immigrés portugais, ni plus ni moins. On parlera également de l'enseignement de la langue portugaise, plus exactement, la section internationale du lycée Collège International de Paris, Honoré de Balzac, Paris 17e. Littérature, un bouquin, Le chasseur d'éléphants invisibles de Miyakoto aux éditions Chandaigne. On ira jusqu'au théâtre pour parler de la pièce Le songe de Bernadette au théâtre du roi René Paris 11. Et finalement, on parlera de musique au sujet du Kent Lynchen, non, un cant d'un chant, pourrais-je dire, du sud du Portugal. Mais avant tout, Monsieur Fabien Cohen, bonjour et merci d'être avec nous.
Merci à vous de m'inviter à nouveau, c'est toujours un plaisir.
Alors, après-demain, je crois que vous allez manifester, puisqu'il va y avoir une nouvelle journée de mobilisation. Alors, cette réforme des retraites, est-ce que ça risque de compliquer la situation dans les hôpitaux, et pas seulement dans tout le secteur de la santé?
Non, c'est pas la situation des retraites qui va compliquer dans les hôpitaux, c'est la situation de la santé qui va compliquer dans les retraites. C'est-à-dire que le fait qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation telle que nous avons de plus en plus de mal à avoir la capacité de répondre aux besoins de la population, et notamment en médecine de ville, c'est un peu les... que à l'hôpital, c'est un peu ce qu'on a dit il y a quelques jours lors de la troisième rencontre débat qu'on a organisée à Créteil sur le Val-de-Marne, sur l'évaluation de la situation et la projection sur les 5 prochaines années, puisque nous sommes en période de réflexion sur le plan régional santé par l'ARS. Et ce plan régional santé, nous voulons le faire avec les citoyens pour qu'ils nous parlent de la situation qu'ils vivent, la réalité. Or, la réalité aujourd'hui, c'est un temps infini pour obtenir des rendez-vous, cette difficulté d'avoir des rendez-vous, non pas qu'ils soient en secteur 1 et en secteur 2, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas avec des augmentations des honoraires, des dépassements d'honoraires importants. Toutes ces questions-là liées à la problème entraînent un problème des urgences, c'est-à-dire que les gens ne pouvons pas aller directement chez leur médecin traitant, puisqu'ils n'en ont même des fois plus. Ce qui pose des problèmes, d'ailleurs, au passage, de prise en charge pour la sécurité sociale, notamment chez les spécialistes, ils sont amenés à aller à l'hôpital. Sauf que l'hôpital, les urgences débordent, ils n'ont pas assez de moyens. Conclusion, ils restent dans les salles d'attente, avec des risques, y compris de décès. On a vu des exemples, malheureusement, encore plus nombreux. Et puis après, il y a besoin de lits d'aval, c'est-à-dire pouvoir les récupérer dans les services. Et toute cette chaîne-là, qui va jusqu'à la situation des personnes âgées, qui aujourd'hui, il y a 30% des lits de SLD, c'est-à-dire des soins de longue durée, qui ont été supprimés à la PHP depuis quelques années. Alors, ça veut faciliter en même temps la mise en place des gens dans des structures privées de type Orpea. Or, vous avez pu voir encore une sortie il y a quelques jours, la deuxième mouture du livre, d'ailleurs il est maintenant en livre de poche, du livre sur les fossoyeurs, où on a bien vu la situation. Et là encore, rien n'a changé. Le journaliste Castanet le dit bien, rien n'a changé véritablement depuis un an. On a tapé sur les doigts d'Orpea. Orpea a quelques petits problèmes financiers, mais le fond du problème n'est pas changé.
Il reste. Alors,
Et quand je dis, excusez-moi, mais quand je dis que c'est la santé qui pose question, c'est qu'au bout du bout, ça entraîne quoi ? Ça entraîne une baisse de l'espérance de vie. Et dans le même temps où on baisse l'espérance de vie, notamment avec des conséquences particulièrement dans les métiers pénibles et précaires, etc., qu'on ne donne pas le moment pour partir plus tôt à la retraite. Et donc, on va augmenter de 2 ans le départ à la retraite, sans compter le niveau de cotisation, le nombre de cotisation, le temps de cotisation qui augmente, pour encore plus d'annuité. Conclusion, ce n'est plus à 64 ans qu'on va partir à la retraite, en réalité. C'est déjà à 67 pour avoir éventuellement à taux plein de ce qu'on a cotisé. Mais en même temps, pour les gens, ça veut dire qu'ils étaient pas comme c'est des taux de plus en plus faibles de pension, devoir travailler au moins jusqu'à 70 ans pour avoir un petit pécule et pouvoir vivre. Donc cette retraite, elle est en train de passer de 60 ans à 70 ans, mais pour ceux qui ont l'espérance de vie la plus faible, c'est la mort assurée avant de profiter de sa retraite. C'est ça le lien santé aujourd'hui et retraite.
Oui, mais évidemment, est-ce que c'est pas plus urgent de s'occuper des questions de la santé, de l'hôpital, que plutôt de retraite? Alors, il y a plein de médecins, je pense que vous dites pareil, des bras, des lits, c'est ça dont on a besoin.
Mais oui, c'est des bras et des lits, mais c'est surtout donner envie de faire ce métier. Parce que le problème, c'est qu'on a de plus en plus de démissions, c'est-à-dire de personnel hospitalier qui en ont marre, qui sont trop fatigués, qui en peuvent plus, ils n'arrivent plus à suivre. Et ils sont tellement dégoûtés qu'ils ne vont même plus dans le domaine de la santé. Ils vont faire d'autres métiers. Ce qui est anormal, absurde. Quand des gens font 7, 5, 6, 7, voire pour le médecin, 10 et 15 ans d'études pour faire un très beau métier auquel moi-même j'en fais partie, pour qu'après dire je suis dégoûté, je m'en vais, je n'en peux plus, on ne peut pas laisser faire ça. Il faut aujourd'hui redonner du sens et quand même un attachement à ce métier, redonner du plaisir à le faire. Et pour ça, effectivement, il faut des moyens. Donc, il nous faut aussi véritablement faire un énorme effort pour, au-delà du recrutement, pouvoir après leur donner des études correctes. Or, aujourd'hui, les universités ne peuvent pas accueillir plus de 10-15% de plus. On dit que le numerus clausus a été abandonné. Ce n'est pas vrai. Il a été transformé. Un numerus clausus qui a avant été fixé par l'État et les ordres des médecins, des dentistes, etc., aujourd'hui est fixé en fait par l'université en fonction de ses moyens.
Et des places qu'ils ont, parce que les bâtiments, ils ne sont pas extensibles entre eux.
Exactement. Et puis il n'y a pas de profs. Ça manque de profs. Ça manque de places. Ça manque d'argent. Parce qu'il y a aussi Parcoursup. Parce que Parcoursup réoriente aussi. Et de ce point de vue-là, c'est un véritable problème. Parcoursup, il faut pour sauver le secteur santé, il faut abolir Parcoursup. Parce que c'est à la base où on pose le problème dès le moment où le jeune étudiant qui a obtenu son bac va se propulser vers ses métiers de santé. Si on le bloque d'emblée, plus on le met des bâtons de roue dans les universités, plus on met des bâtons de roue dans les stages, après qu'ils soient obligés de faire, si on supprime des services, on supprime des stages. Donc on est en train de ralentir autrement le recrutement, et donc finalement, d'un numerus clausus, on passe à un autre, qui est beaucoup plus pervers, parce qu'on pense que maintenant que c'est plus libre, ça devrait se faire, et donc l'État dit, moi je ne suis pas responsable, mais si, l'État continue à être responsable de cette situation.
Alors, c'est quand même, par exemple, dans le Val-de-Marne, et pas seulement, on arrive à un moment donné, surtout ce secteur de pédiatrie, qui est en grande difficulté, comme beaucoup d'autres, mais enfin, ça n'empêche que c'est pas pour rien qu'il y a eu 10 000 soignants en pédiatrie, dont 400 chefs de service, qui ont dénoncé le tri quotidien des enfants, faute d'effectifs. N'est plus, on trie les enfants malades.
Eh oui, ils en sont arrivés là. Et quand je vous dis que ça pose un problème, j'allais dire psychologique, affectif, les médecins, ils sont pas, c'est quand même des hommes et des femmes. Ce sont des gens qui ont une âme, qui, à un moment donné, quand on les met devant ces situations-là, de devoir dire quel enfant je prends en priorité en fonction de la gravité, en sachant que malgré tout, ça peut entraîner des conséquences pour l'autre, on est devant des situations qui sont, qui à la fin de la semaine et à la fin de l'année, vous mettent dans des situations où vous dites que je peux continuer à faire ce travail-là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait cette lettre et qu'ils se sont révoltés et signés ce courrier, parce qu'il y a un moment donné, trop, c'est trop. Et là, on est en train de toucher, je ne sais pas si c'est le fond, parce que malheureusement, on s'aperçoit toujours que le fond peut être encore plus bas, mais il s'avère qu'on touche à une corde très sensible de l'ensemble des professionnels de la santé. C'est vrai en pédiatrie, mais c'est vrai dans d'autres services, c'est vrai en psychiatrie. La psychiatrie est complètement sinistrée. C'est un des domaines, et particulièrement la pédopsychiatrie. On a de moins en moins de moyens, et je ne vous parle même pas de la santé scolaire, qui est quasiment inexistant, ou de moins en moins existant. Il y a eu, lors de notre rencontre, qui a eu lieu donc il y a quelques jours à Créteil, il y a eu une orthophoniste qui est responsable d'ailleurs du syndicat des orthophonistes, hein, qui n'est pas CGT ou du syndicat professionnel, et qui nous a dit que depuis maintenant quelques années, elle a retiré sa plaque, elle s'est retirée du bottin, et elle ne peut plus aujourd'hui, elle ne fait plus aucune publicité pour elle, parce qu'elle a tellement de patients. Et malgré tout, les patients prennent rendez-vous à 2 ans. Sans plaque, sans numéro de téléphone donné, uniquement par le bouche à oreille, tellement il y a de besoins qui ne sont pas satisfaits et qu'il n'y a pas assez d'orthophonie. C'est vrai pour les orthophonistes, et vrai pour les autres professions paramédicales, et elles sont encore plus vraies, si je puis dire, pour les professions médicales. Le problème des effectifs est un problème aujourd'hui central, mais il est central pourquoi ? Parce que dans le même temps, on réduit tellement les moyens. Le coûte que coûte de M. Macron, c'est terminé depuis longtemps. D'abord, on sait que ça a un coût, contrairement à ce qu'il dit, puisqu'il va nous faire payer des dettes, mais en même temps, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est complètement profondément faux. Pourquoi ? Parce que quand on vote avec un 49-3, en fait, c'est-à-dire de manière autoritaire, on vote même pas, d'ailleurs, les parlementaires n'ont même pas voté, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qu'on dit royalement il y aura 3,1% d'augmentation, mais que l'on sait que l'inflation est autour de 6 à 8, forcément, c'est une réduction de 3 ou 4% les moyens qui sont donnés au regard aujourd'hui du prix de l'énergie, du prix de tout ce qui augmente, et cette inflation qui nous touche tous individuellement, mais qui touche aussi les services publics et les collectivités. Donc, à partir de ce moment-là, on a aujourd'hui, véritablement, un problème de moyens financiers et qui entraîne en même temps les conséquences qu'on a au niveau des moyens humains.
Tout à fait. Alors, dernière question en forme de constatation. Il s'agit de quelque chose que l'ONG UFC Que Choisir fait tous les ans, à savoir la carte de la facture sanitaire. Alors, selon UFC Que Choisir, cette facture sanitaire fait en sorte qu'il y a des millions de patients qui vivent dans des déserts médicaux. Ça concerne les enfants, ça concerne plein de monde, des millions de personnes qui n'ont pas accès à la santé en France aujourd'hui.
Bah oui, la part des enfants qui vivent dans les déserts médicaux pédiatriques aujourd'hui est passée à 46,8%. C'est-à-dire qu'il y a presque plus de 20% d'augmentation. Mais les femmes qui résident dans les déserts médicaux gynécologiques aussi, c'est 66,8%, soit 43% de plus, et je ne vous parle même pas en ophtalmo, c'est plus du triple. On est à 62,8% d'augmentation, 62,8% de la population. C'est-à-dire que c'est des secteurs entiers de domaines médicaux où aujourd'hui, quasiment une personne sur trois peut y accéder. C'est un vrai problème médical. Et si je ramène ça en retraite, quand vous êtes dans cette situation-là, vous imaginez bien que l'espérance de vie, elle n'est plus une question de santé, une question de personnes et une question de rapport social. Si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de vous payer une véritable suivi médical, dès le départ, c'est-à-dire y compris préventif, et parce que la médecine du travail a été aussi attaquée ces dernières années, forcément votre espérance de vie baisse, et quand on vous propose d'augmenter le temps d'accès à la retraite, forcément, cet accès à la retraite, au mieux, vous en avez le droit pour 1 an ou 2 ans, Et au pire, vous n'y avez même pas droit du tout, parce que il correspond à la fin de votre vie. Donc, fin du travail, fin de la vie, où est la retraite? Zéro. Alors, est-ce que cyniquement, c'est là-dessus que compte Macron et le gouvernement pour pouvoir, aujourd'hui, faire baisser le coût de la retraite? Au passage, quand même, qu'on ne nous dise pas qu'il n'y a pas d'argent. Les 42 milliardaires de France, si on leur fait payer simplement une taxe de 2%, on obtient 17 milliards. Et les 17 milliards correspondent exactement aux besoins pour compenser ce que dit M. Macron, une éventuelle déficit, parce que ça c'est encore très contestable, déficit du service du budget de la retraite. Donc on voit bien que l'argent elle existe. Pourquoi ne taxons-nous pas ces 42 milliardaires? Ça ne fera pas de mal de 2% de moins. Quand on sait que là, dans la dernière période, les actionnaires aujourd'hui, la bourse en 2023, les dividendes n'auront jamais été aussi florissants que 2022, qui déjà était florissant, etc. Donc, l'argent est dit. Là, on est devant une situation qui est, au passage d'ailleurs, en lien avec aussi la Commission européenne, qui cherche aussi à imposer un système européen de retraite qui tourne autour des 70 ans, avec des conceptions qui n'ont rien à voir avec l'esprit du Conseil national de la Résistance, l'esprit de ce qu'a été la création de la sécurité sociale et qui nous protège jusqu'à aujourd'hui.
Tout à fait. Monsieur Fabien Cohen, merci. Je rappelle, vous êtes au porte-parole de la coordination de vigilance du GHU, Henri Mondor, Albert Chenivier, Émile Roux. On va être attentif à tout ce qui va se passer, puisque la santé, c'est un bien.
Et on se retrouve le 31 janvier.
31, mardi.
Place d'Italie.
Place d'Italie, à 14h.
Voilà, merci beaucoup.
Merci, à bientôt. Jusqu'à Crône, dans le département 411. Monsieur le maire, bonjour, Michael Damietti.
Bonjour à tous, Arthur.
Merci d'être avec nous. Alors, on commence par question qui fâche, l'argent. Parlons du prix de l'énergie. Est-ce que ça s'est arrangé ou pas depuis? Puisque, bon, on a parlé du bouclier énergétique. Est-ce que, finalement, votre municipalité et les services publics ont eu le droit à ce bouclier ou pas?
Alors, on va parler des choses qui fâchent, mais avant tout, permettez-moi de vous présenter à vous, on est encore dans les temps, et à l'ensemble de vos auditeurs, mes meilleurs vœux pour cette année 2023, qui s'annonce en effet assez difficile. Mmh. Pour répondre à votre question, évidemment, l'énergie est un vrai sujet cette année. Oui, la ville de Crône va bénéficier du bouclier énergétique, mais à hauteur de 200 000 euros, alors que la facture va augmenter de plus d'1 million d'euros. Donc, on va avoir une petite aide, mais ça ne sera absolument pas suffisant pour pouvoir compenser l'augmentation du coût de l'énergie.
Mmh. Mais ça n'empêche beaucoup le gouvernement. Oui. Mais il paraît que le département a décidé un certain nombre d'aides. Est-ce que ça concerne le secteur privé? Apparemment, la région Île-de-France va aider les boulangers. Mais ce qui concerne les services publics, il y a rien de plus.
Non, il y a rien de plus. Et même pour les entreprises, les PME, les boulangers, les artisans, ils vont avoir une petite aide, mais c'est pas du tout à la hauteur des augmentations que nous subissons. Donc, j'ai presque envie de dire que c'est un pansement sur une jambe de bois. Donc, on peut pas dire que le gouvernement ne fait rien, mais évidemment, nous devons gérer cette situation. Certaines entreprises vont fermer, elles vont être contraintes de fermer. Et nous, pour les collectivités, nous devons quand même trouver des solutions dans nos budgets qui sont déjà largement restreints. Je rappelle que depuis 2014, les dotations pour les villes, pour les collectivités, ont largement baissé. Et depuis, rien n'a changé. Mmh. Et cette année, le coût de l'énergie, alors on parle de l'énergie, peut-être qu'on va l'aborder ensuite, mais le gouvernement a aussi décidé d'augmenter le point d'indice, c'est-à-dire le salaire des fonctionnaires, en tout cas de ceux des collectivités territoriales. Alors moi, dans l'absolu, j'y suis plutôt favorable. C'est très bien qu'on puisse donner du pouvoir d'achat aux agents. Mais par contre, il faut aussi, de l'autre côté, pouvoir nous aider et donner à hauteur de cette augmentation. Pour la ville de Crône, je vous parlais de l'augmentation énergétique qui va être de plus d'1 million d'euros. Ce point d'indice, cette augmentation du point d'indice, ça va être 300 000 euros de plus sur notre budget.
Mmh. Bon, oui, c'est vrai, parce que... Bon, justement, alors, par rapport à ça, bon, on sait que la taxe d'habitation est disparue. Entre-temps, alors, j'ai noté hein, que ça a été enregistré à la présidence du Sénat le 24 janvier, une proposition de loi constitutionnelle instituant les lois de financement des collectivités territoriales et de leur groupement. Ça a été présenté par le sénateur M. Carucci. Justement, dans les attentes de cette proposition de loi, on avance et on parle de certaines choses telles que la taxe d'habitation qui est disparue. Donc il y a des recettes qui sont disparues, mais bon, je reviens toujours à la même chose, les dotations de l'État n'ont pas suivi.
Alors, sur la taxe d'habitation, l'État a quand même contribué à hauteur de la disparition de cette taxe. Mais c'est vrai que d'un point de vue, on va dire, fiscal, aujourd'hui, on n'a plus de moyens d'avoir plus d'argent. Enfin, on n'a plus de moyens, si. Il reste évidemment la taxe foncière, mais ça concerne uniquement les propriétaires. Et c'est vrai que nous sommes déjà largement taxés. Donc, c'est quand même une équation qui est très difficile. Et c'est vrai que de trouver des recettes aujourd'hui pour équilibrer le budget, moi, je rappelle que les collectivités doivent avoir un budget équilibré, ce qui n'est pas le cas de l'État. Hein. L'État est largement déficitaire et on en parle régulièrement. Alors, nous devons présenter un budget à l'équilibre. Et l'équation devient de plus en plus difficile. D'ailleurs, je salue le travail des élus, parce que, évidemment, quand on s'engage dans un mandat, c'est pour faire un certain nombre de réalisations. Et là, on est obligé de leur dire, écoutez, on ne va pas pouvoir faire, ou en tout cas faire moins que ce qu'on a prévu, parce qu'il faut quand même trouver des vraies sources d'économie. Et quand on est déjà à l'os, trouver des économies, ça devient de plus en plus difficile.
Ça veut dire qu'on fait des coupes, quelque part?
Eh oui, il y a des arbitrages, évidemment, qui doivent être faits. Donc on essaye d'être innovant, de trouver des solutions, de travailler plutôt en local, de réduire un certain nombre de dépenses. Mais bien sûr, il y a des arbitrages, et des arbitrages qui sont difficiles. Qu'est-ce qu'on enlève? Est-ce qu'on enlève la cantine? Est-ce qu'on enlève les policiers municipaux? Est-ce qu'on met moins de gens pour nettoyer les rues? Et derrière, qui va prendre ou qui va subir les conséquences de cette situation? Évidemment, ce sont les élus locaux. Et c'est ça, toute la problématique.
Oui, parce qu'en même temps, l'aide sociale, je pense qu'on fait davantage appel à vous, non, à vos services.
Bien sûr, et je pense que ça va se développer aussi, parce qu'on parlait des entreprises. À mon avis, la situation va se tendre au niveau privé, au niveau des entreprises. Et il n'est pas du tout impossible, d'ailleurs on l'a prévu dans notre budget, qu'on ait des aides supplémentaires à pourvoir pour nos concitoyens, bien sûr.
Alors, parlons d'un autre sujet qui fâche, c'est les passoires énergétique, à savoir les habitations. Non, un certain nombre d'habitations ne sont plus louables puisqu'elles ne respectent pas un certain nombre de données, un certain nombre de règles. Alors, quand on parle d'isolation thermique, qu'est-ce qu'un maire peut faire? Qu'est-ce qu'il propose?
Là aussi, nos moyens sont relativement limités. Alors, moi, je salue le département de l'Essonne. Vous êtes dans le Val-de-Marne. Le département de l'Essonne a mis la prime écologie, donc qui permet de financer en partie des travaux pour les passoires énergétiques, comme vous dites. Ça ne concerne pas malheureusement les collectivités, mais en dehors de ça, nous, en tant que maire, en tant que collectivité, on peut accompagner les gens qui souhaitent faire des travaux à travers d'associations comme l'ALEC, par exemple. Mais en dehors de ça, financièrement, on peut rien faire.
Alors, il y a peut-être un moyen de faire quelque chose. C'est demain que ça va être présenté, ce qu'on appelle le fonds vert. Les maires peuvent, dès aujourd'hui, je suis en train de lire un communiqué du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Les maires peuvent, dès aujourd'hui, demander le financement de leur projet de transition écologique. Alors, ce fonds vert est doté de 2 milliards d'euros en 2023. Ça, c'est de l'État, et de 1,2 milliard de la Banque des territoires. Ça peut être une bonne nouvelle pour vous?
Oui, évidemment, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que ça va être aux mains des préfets. Donc c'est les préfets de chacun des départements qui vont pouvoir choisir les différents projets. Donc ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle et ça va accélérer la transition énergétique. Je vais vous donner quelques exemples sur la ville de Crône. On va multiplier le changement de nos candélabres, de l'éclairage public pour passer au LED et faire de plus d'économies. Donc, et évidemment, on va solliciter ce fonds vert. De la même manière, si vous avez des travaux d'isolation ou d'amélioration énergétique, ça tombe très bien. Mais encore faut-il pouvoir le financer, parce que le fonds vert, on parle de 2 milliards, mais c'est 2 milliards dans sa globalité. Donc il reste il y a un reste à charge très important pour les collectivités. Et il y a aussi une question de timing, c'est-à-dire que si vous n'avez pas prévu des travaux dans vos écoles, dans vos mairies ou dans d'autres bâtiments publics, bah vous ne pourrez pas bénéficier de ce fonds vert. Et il faut quand même trouver des solutions et en tout cas des projets qui rentrent dans ce fonds vert et dans le dispositif et les règles qui sont annoncées par l'État. Donc tout ça, c'est assez difficile. Et malgré les effets d'annonce, il faut savoir qu'il reste encore une grosse partie à la charge des collectivités. Donc il faut aussi pouvoir trouver ces financements.
Ah oui, parce que bon, je pense que vous, quand on parle d'école, ça touche les crèches et les écoles primaires, les écoles élémentaires, c'est comme ça qu'on dit. Alors, sur les réseaux sociaux, vous avez pris, un coup de colère. Vous étiez en colère contre ce qui se passe au niveau des transports et je pense que c'est l'entreprise Keolis. Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, vous êtes à Crône, donc la banlieue parisienne, il y a des problèmes avec les transports. Qu'est-ce qui se passe avec cette compagnie exactement?
Alors là aussi, on incite nos administrés à prendre les transports en commun pour des questions d'écologie, des questions de circulation, évidemment. Mais encore faut-il pouvoir mettre les moyens pour que justement ils puissent rejoindre notamment les gares, que ce soit la gare de Montgeron, Crône ou la gare de Villeneuve-Saint-Georges sur notre territoire. Et c'est vrai que là, on a eu des problématiques avec l'opérateur qui est en charge du transport par bus, Keolis, qui lui-même a des problèmes en termes de recrutement, parce qu'il n'avait plus de chauffeur, pour dire les choses très simplement, et des problèmes aussi, je dirais, d'horaire où les bus arrivaient trop tôt, ou les bus n'arrivaient pas. Et c'est vrai que là encore, même si c'est pas une compétence qui est gérée par la ville, puisqu'elle a été transférée à l'agglomération, mais c'est nous, en première ligne, qui prenons les doléances de nos administrés, et évidemment qu'il faut qu'on trouve des solutions. Donc on a eu une réunion d'urgence avec Keolis, qui a mis quelques solutions, on va dire, encore une fois, d'urgence, notamment en termes de chauffeurs, mais là aussi, il faut que le service soit à la hauteur de ce qu'on peut demander pour améliorer et le transport, et encore une fois, être plus vertueux d'un point de vue environnemental.
Alors, mais quand Madame Valérie Pécresse, donc la présidente de la région Île-de-France, annonce la privatisation de la RATP dans l'horizon 2025, déjà sachant que le service a été réduit à cause de la Covid, etc. Bon, donc la situation risque d'être compliquée pour ceux qui habitent en banlieue et qui n'ont pas de voiture et veulent pas utiliser leur voiture.
Oui, c'est vrai, et en plus, vous parlez de ça, mais on a eu aussi l'augmentation quand même du Navigo, puisque les gens payent plus cher aujourd'hui le transport. Et je pense que l'innovation va passer justement sur des solutions qui n'existent pas encore aujourd'hui, qu'on appelle du transmodal. C'est souvent ce dernier kilomètre, comme on dit, qui permet de rejoindre une gare pour justement aller dans les centres économiques, que ce soit à Paris ou d'autres endroits. Donc il faut trouver de nouvelles solutions. On a le bus qu'on connaît, mais à mon avis, il faut développer encore d'autres modes de transport plus faciles, que ce soit du vélo, avec aussi des endroits, des pistes cyclables sécurisées, des endroits où vous pouvez mettre votre vélo sans avoir la crainte qu'il soit détérioré ou volé quand vous reviendrez, ou d'autres moyens. C'est vraiment ce dernier kilomètre qui manque et sur lequel il faut travailler et trouver des solutions innovantes qu'on n'a pas encore aujourd'hui. Moi, je citerai un exemple et un chantier qui va démarrer et qui a tout juste démarré. C'est le téléphérique urbain qui va se trouver donc à Villeneuve-Saint-Georges et qui va rejoindre Créteil et la ligne 8 du métro. Là aussi, voilà quelque chose d'innovant et qui permettra aussi de désengorger la circulation et qui proposera une solution, on va dire, alternative pour rejoindre soit d'autres villes ou alors le métro. Mais de pouvoir rejoindre ces pôles, que ce soit le téléphérique ou ce soit les gares, il faut vraiment trouver ces modes de transport qui manquent encore aujourd'hui.
Oui, mais monsieur le maire, est-ce que ce serait pas possible d'avoir le stationnement gratuit aux alentours des gares? Parce qu'en règle générale, il faut payer le stationnement. Donc, alors on dit aux gens, prenez les transports en commun. Et de l'autre côté, il faut payer le stationnement. Alors, quand on parle pendant 8 heures, bon, comment on fait? Des abonnements
Alors, ça peut être une solution, Arthur, mais moi, je vais vous donner un exemple sur la gare de Montgeron-Crône avec la ville de Montgeron. Nous avons mis en place un système de paiement qui est de 15 euros par an. Donc, c'est pas gratuit, mais c'est quasiment gratuit. Donc, 15 euros, C'est vraiment pas très cher. Mais malgré cela, il faut d'abord s'y rendre. Donc ça, c'est une problématique. Ensuite, il faut trouver de la place. Et le dernier point, il faut que les RER, par exemple, soient à la hauteur du service qu'on attend. C'est-à-dire qu'ils soient à l'heure, qu'ils soient présents, et tout ce qui va avec. Et malheureusement, sur la ligne D, on retrouve de nombreuses problématiques. Donc, le stationnement gratuit, oui, pourquoi pas. Mais je pense qu'encore une fois, il faut trouver d'autres modes pour rejoindre ces gares. Et de le faire le plus facilement possible.
Oui, quand on peut. Alors, monsieur le maire, une dernière question. Pour faire une carte d'identité, un passeport, bon, c'est un petit peu galère en ce moment, hein, parce que d'une part, avant c'était dans toutes les mairies, maintenant il faut aller dans un certain nombre de mairies. On a les délais qui s'allongent. Attends, le gouvernement a décidé de mettre de l'argent justement pour réduire ce délai. Et on parle même de recruter 500 agents communaux. Alors, comment on fait? Est-ce que ça peut être fait ou pas? Parce que tout ça, ça a été plus ou moins dénoncé par M. Philippe Laurent, qui est vice-président de l'Association des maires de France. Il a dit, bon, ça va être dur de recruter ces agents.
Alors, d'abord, c'est un service qui n'était pas présent dans toutes les villes. Donc, à Crône, on a demandé avec insistance auprès des services de la préfecture pour avoir ce service. Nous l'avons obtenu, donc nous sommes en phase de préparation et c'est un service qu'on va pouvoir délivrer dans les prochaines semaines dans notre ville. Mmh. Alors évidemment, c'est ouvert à tout le monde, hein, pas que aux Crônois, c'est ouvert à tout le monde. Mais là où vous avez raison, c'est que c'est un service supplémentaire et qui demande des moyens supplémentaires, c'est-à-dire des agents supplémentaires. Donc, première question, c'est les compétences. Tout à fait, il faut pouvoir trouver ses compétences. Et deuxième question, c'est qui paye? Parce que c'est un service supplémentaire, donc on va dire un agent supplémentaire.
Non, mais monsieur le maire, pardon, le gouvernement a annoncé qu'il allait doter les communes de 20 millions d'euros supplémentaires.
Mais ça sera jamais, Arthur, ça sera jamais à la hauteur du travail effectué par les agents, jamais. Donc forcément, il va avoir, même si le gouvernement va aider les communes, et c'est très bien, mais forcément, il va avoir un coût supplémentaire. Et dès que vous proposez un service dans une ville, dans une collectivité, forcément, il y a un coût supplémentaire. Vous ouvrez des places de crèche, forcément, vous allez devoir recruter des agents pour pouvoir s'occuper des enfants. Vous offrez ce service de carte d'identité, de passeport, forcément, il va devoir avoir un ou deux agents pour pouvoir faire le recueil des empreintes et monter tous les dossiers. Donc, évidemment que chaque service supplémentaire, il y a le coût du service, mais après, il y a le coût de la gestion de ce service avec notamment les collaborateurs. Donc tout ça, il faut que les collectivités puissent l'assumer. Et quand on voit les finances et toutes ces hausses, et vous en parliez tout à l'heure de l'inflation, hein, on n'a pas parlé du coût de la cantine, des coûts des produits d'entretien, etc., tout augmente sauf la dotation aux collectivités. Donc comme je vous le disais, l'équation devient difficile, voire parfois impossible.
Alors, mais ça concerne la carte d'identité, le passeport, vous avez des propositions concrètes à faire? Parce que je sais que dans le temps, ça se passait dans les préfectures. À l'époque, il y avait des sous-préfectures, tout ça s'est disparu, les services publics, les permanences, la CAF, la sécurité sociale, même les recettes des impôts. Bon, mais quelle solution aujourd'hui, qu'est-ce qu'on... Bon, à moyen terme, disons.
Ben, à moyen terme, tout simplement, c'est d'avoir, on va dire, une contribution de l'État à hauteur du coût que coûte ce service, puisque vous parlez des cartes d'identité et des passeports. Voilà, c'est d'avoir le coût d'un ou de plusieurs agents remboursés aux collectivités pour qu'elles puissent ne pas avoir à supporter cet effort et proposer ce service supplémentaire avec le moins de conséquences possible. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, même s'il va y avoir une aide du gouvernement, ça ne sera jamais à la hauteur de ce que ça va coûter aux collectivités.
Donc, ça veut dire que l'annonce du gouvernement de l'ouverture de 500 guichets pour délivrer des titres d'identité, c'est pas demain la veille?
Si, mais ça va coûter aux collectivités. Et encore une fois, comment à un moment on va pouvoir boucler nos budgets? C'est ça la question. Donc moi, je suis heureux de pouvoir proposer ce service aujourd'hui à mes administrés et à tout le monde. Mais forcément, il va avoir un coût. Et à un moment, comment on fait pour pouvoir régler ces coûts? C'est ça la question.
Bon, la question reste en l'air. Bon, on va demander à qui de droit, mais finalement, bon, c'est. Mais là, vraiment, Monsieur Damiati, ça va être vraiment ma dernière question. Monsieur Emmanuel Macron est au pouvoir et président de la République depuis 6 ans, et depuis le départ, on dirait qu'on a senti, disons, je ne dis pas du mépris, mais il a mis un peu de côté les élus locaux. Vous avez senti ça ou pas?
Bah, en tout cas, on, peut-être pas du mépris, mais de la distance. C'est vrai que, encore une fois, nous sommes sur le terrain et nous sommes auprès de nos concitoyens. Donc, je pense qu'on devrait plus nous écouter. Et ce qu'on fait remonter, c'est pas du tout pour se plaindre, parce que on a décidé d'être élu. Mais derrière, parfois, on sent qu'il y a de la distance avec la réalité des choses. Et les annonces qui peuvent être faites, ces milliards, que ce soit le fonds vert ou encore pour les aides sur les pièces d'identité ou les passeports, bien sûr, ils sont présents. Mais quand vous diluez tout ça sur le nombre des communes, à la fin, ça fait pas grand-chose. Donc, c'est beaucoup d'effets d'annonce. Et parfois, nous, sur le terrain, on n'en voit pas toujours la couleur.
Eh ben bon, c'est vous qui le dites, puisque vous êtes confronté à ça quotidiennement. Monsieur Michael Damiati, merci. Je rappelle, vous êtes maire de Crosne dans le département 91. Merci et à très bientôt.
Merci Arthur, très bonne journée à vous.
Estamos aqui ao direto neste domingo, dia 29 de janeiro. Passagem em nível na vossa companhia até às 14 horas. Já estou a mostrar o português com francês. E emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira. Deputada socialista propõe monumento em Paris para assinalar a chegada dos imigrantes portugueses, concretamente Nathalie Oliveira, deputada eleita pelo Círculo da Europa, pelo Partido Socialista. Nathalie Oliveira, bom dia.
Bom dia, bonjour.
Bonjour, chère madame. Alors, madame la députée, bom, vamos falar em português, porque é deputada na Assembleia da República. Uma pergunta anexa, depois já veremos este monumento, já um horizonte 2024, isto tem a ver com os 50 anos do 25 de Abril, já iremos. Como é que estão a decorrer os Estados Gerais da Lusodescendência aí na Casa de Portugal, na cidade universitária?
São dois dias, obrigada pelo convite, antes de tudo, são dois dias sempre muito ricos em termos de debates, que não receiam colocar no meio do debate assuntos de grande importância, que claro que são a língua, o ensino da língua portuguesa. De facto, não aludimos a questão da participação cívica e política, foi mais também, ontem presenciei a intervenção do Vitor Pereira, do nosso historiador do Ascendente, sobre os dados importantes, algumas informações de início de trabalho, de preparação da comemoração dos 50 anos da Revolução dos Cravos e da chegada da democracia a Portugal. E interessou muito os líderes associativos presentes e ainda estamos no início do tudo com esta ideia que propus à Câmara de Paris de festejar também, de uma forma original, os 50 anos da democracia, que é celebrar, honrar, homenagear a chegada de centenas de milhares de portugueses aqui aí na Garra do Socialista. Não é só a Garra do Socialista, mas centenas deles, os nossos compatriotas chegaram aí na Garra do Socialista. Antes, muitos deles ficaram em Paris e arredores de Paris, mas muitos também apanharam o comboio para seguir caminho para outras estações de França. Porque não, também, e de certeza que será o caso, está agora a interessar muitos municípios de França, porque de facto o 25 de Abril tem que ser festejado em todo o mundo. Há aí uma mensagem universal em termos de democracia para o resto do mundo. O mundo não está nada, a metade da humanidade não está a viver em paz, não está a viver em democracia, não sabe o que é ter direitos, e eu já disse, já escrevi, nem sequer sonhar. Por isso é importantíssimo agora associar quem também sofreu da falta de democracia e liberdade e quem fez com que esta liberdade chegasse a Portugal.
Mas isso não vai passar pela inclusão das comunidades nas celebrações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril? Isso está a avançar? Porque eu sei que no Parlamento já se falou nisso.
Claro que era mais do que injusto não associar a rede associativa portuguesa em França. Tivemos aqui os líderes em exílio, com Mário Soares, de viver e ensinar aqui em França, antes de chegar a Portugal, logo a seguir ao 25 de Abril, mas de facto era imprescindível agora de deixar de parte quem fez Portugal, não é só a chegar, mas logo dos primeiros passos na Galo do Célix, mas que ainda está a fazer a honra de Portugal aqui em França. A primeira geração ainda vive, a segunda, a terceira. Como foi dito aqui, eu acho que aqui destes dois dias de Estados Gerais da Lusodescendência estão a viver. Portugal ainda tem muito futuro em França, na Europa e pelo mundo fora. É o que está a ser aqui a ser debatido em termos de, também das realidades, das dificuldades de receber ensino português em todo o restante de França e etc. Mas também temos aqui, na verdade, provas que ainda Portugal tem muito futuro em França e pelo mundo fora. O 25 de Abril e essa comemoração da Gala Austerlitz, estamos agora no início de uma conversa, a Câmara de Paris aceitou a ideia, a Câmara de Paris tem a responsabilidade agora de informar e de propor a ideia à direção do património da SNCF, dos comboios de ferro franceses, associar também em todo o território nacional quem estiver interessado também em ter um dia de comemoração, porque não chegaram todos e não foi no mesmo ano, na mesma altura, mas e foram vários anos portugueses a chegar na Gare de Austerlitz, três em particular, entre 69 e 71, acolhidos pelo Comitê de UT, Associação de, enfim. Todos estão convidados, eu queria dizer também hoje agora, amanhã, mas dizer a todos, já é hora do almoço, mas convidar líderes associativos, qualquer cidadão, há um site dedicado agora a uma associação toda empenhada a recolher as propostas e as ideias para comemorar o 25 de Abril. A minha é uma delas. Acho que há outras pessoas que nem têm ligação com a história portuguesa que tinham ficado, estão tristes ainda de nossos imigrantes não terem sido homenageados na Gala do Austerlitz. Estou a pensar em particular à comunidade judia, que tinha também notado este facto triste perante a autoridade camarária de Paris. Uhum. Vamos agora em frente com... Eu de certeza que esta ideia deste dia não vai ficar por um só dia. Vamos agora entrar numa fase de reflexão. Eu de certeza que teremos conferências, que teremos festas, que teremos na Gala do Austerlitz naquele dia como em todo o território nacional. E gostava, claro, se não é o poema de Manuel Alegre em toda esta constância, mas outras ideias, outras claro, obras artísticas, mas de facto é aí um traço, uma marca que tem que ficar para a posteridade e para a eternidade dos nossos ter chegado, das condições como chegaram e daquilo que trouxeram, que foi uma mensagem ainda muito viva do amor à democracia, da importância de cada um, cada cidadão ter consciência da sua importância na participação no dia de um voto, de uma eleição, mas de o que tem, claro, provado os portugueses ao longo da vida, de ter sido tão associativos, tão solidários, tão animadores da vida das próprias cidades e aldeias onde residiram em França.
Com efeito.
A partir do Austerlitz.
Ora, Portugal em Paris é o poema de Manuel Alegre. Sua pátria derramada na Gare do Austerlitz. Há outro nome que eu poderia associar, Helena Vieira da Silva, que também esteve aqui a refugiada e que, a quem o ditador Salazar, fascista Salazar, retirou-lhe mesmo a nacionalidade. Mas enfim, bom, as coisas estão a andar. Ora, o que não está a andar é a situação do Conselho das Comunidades Portuguesas. O Partido Socialista tinha prometido que teríamos já, digamos, uma proposta de alteração à lei que regula o CCP, em princípio. O Partido Socialista devia ter apresentado algo em setembro do ano passado, nada foi feito. Ora, já não há eleições no CCP, as últimas datam de 2015. Ora, como deputada pelo Círculo da Europa, estas questões vão avançar? Onde é que nós estamos?
As eleições vão avançar e devem avançar. Deve haver data. O que é agora está a ser trabalhado é ainda termos eleições em junho de 2023. Ou seja, agora avançar com uma proposta, uma apresentação da proposta de lei, eu acho, ainda em fevereiro, e, enfim, os próprios líderes, o presidente da CCP, o Flávio Martins, o senhor Flávio Martins, até numa reunião, numa audição, junto da Comissão dos Negócios Estrangeiros, no dia 15 de novembro, tinha aceito que pudesse acontecer até ao final do ano deste ano, 2023, mas está tudo a ser agora empreendido, para este projeto de lei conseguir maioria, claro, e ser votado em plenário o mais rapidamente possível. a questão do voto, a questão desse teste que tinha sido proposto sem, porque havia razões técnicas e jurídicas para poder avançar, por outras razões que apareceram, isso também tem a ver com a democracia, há dificuldades num contexto que não sugere maior segurança.
Natália Ribeiro, eu penso que está a referir a um hipotético voto eletrónico, é isso?
Para já...
Isso está posto de lado. O Partido Socialista está contra, aparentemente.
Eu não sei se o Partido Socialista inteiramente está contra. De facto, há argumentos que convenceram quem está a liderar o Partido Socialista. Mas eu, de facto, eu não estou contra agora uma etapa que foi decidida de forma maioritária. Eu não faço parte de uma maioria, sou uma pessoa bastante disciplinada. Também acredito que o voto em mobilidade ou o voto antecipado possa trazer, marcar uma etapa nova para não ficar em estagnação com o que tínhamos prometido, ou seja, avançar, aproximarmos de mais facilidade e mais acesso ao voto para cada junto de cada cidadão português a residir fora. Há muitas pessoas que não querem teste, que acham que temos que ir no meio do Partido Socialista e vários colegas também no Parlamento, que ou estamos prontos de forma definitiva em termos de contexto geral e redigimos uma lei no sentido de existir harmonização e várias outras possibilidades de voto, ou não acharam essa etapa do teste que estava previsto num só país e no quadro só da eleição do CCP ser vantajosa, no contexto de insegurança global no qual estamos a viver. Sim. É um argumento aceitável, não é de certeza o mais desejável por parte da maioria dos concidadãos com quem eu estive a conversar e perante os quais tínhamos avançado a ideia, com esta ideia, não significa que a possibilidade de voto eletrónico seja... fique perdida ou fica enterrada com o resto até ao final do mandato.
Sim,
ainda por ser debatido, e desejo, num contexto de paz, num contexto de pleno emprego, num contexto que favorize um debate apaziguado e mais confiança do topo do poder junto até cada concidadão a residir fora. E é o que ainda desejo e defendo, porque sempre fui a favor de avançar com a solução bem-sucedida de França, apesar de, sabemos, temos duas eleições, dois deputados cuja eleição foi anulada, por várias razões, mas uma delas é que os códigos e o caminho para chegar a votar de forma eletrónica remota não foi cumprido.
Não
foi cumprido, ou seja, temos que também, sim, ter em sua plena consciência que existem ainda problemas técnicos, e que pode, numa eleição geral, provocar um precedente, enfim, negativo e muito mau para a democracia.
É uma etapa,
não é do agrado e de satisfação de muitíssimas pessoas, mas não significa que, porque a democracia também é o seguinte, é sempre avançar, apesar de termos de ser de vez em quando umas paragens ou uma revisão daquilo que tinha sido inicialmente anunciado.
Enfim, bom, o que é importante é que haja eleições para o CCP este ano.
Vão haver eleições do CCP este ano.
Natália Oliveira, muito obrigado. E vale a pena consultar que o Diário de Notícias e a opinião que escreveu, que está datada do dia 24 de janeiro.
Sim, foi esta semana.
2023, o ano que precisamos de ser solidárias e fala mês por mês. Obrigado. Convido os nossos ouvintes a irem até ao site do Diário de Notícias, portanto, a crónica da opinião de Natália de Oliveira, datada do dia 24 de janeiro de 2023. Muito obrigado, Natália, e até uma próxima, então.
Até uma próxima, obrigada.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora da passagem em nível neste domingo, dia 29 de janeiro. Realizamos na semana passada, precisamente, uma emissão sobre as secções internacionais. Estão abertas as inscrições, assim, no Liceu Montanha. Estão abertas até o dia 7 de abril e é igualmente uma jornada de portas abertas em videoconferência no sábado, dia 4 de fevereiro. Entretanto, no Liceu Internacional São João Lé, isso abarca todos os setores, desde o pré-primário até, evidentemente, até ao Liceu, as inscrições abertas até o 10 de março, e no que diz respeito ao Lycée Collège Honoré de Balzac, Boulevard Bessières, em Paris, 17, inscrições estas abertas até o dia 7 de abril, e vai haver uma jornada portas abertas a partir das 9 horas, no dia 4 de fevereiro, é como quem diz, já no próximo sábado. E connosco temos um membro da Associação de Pais de Alunos desta secção internacional portuguesa, Marco Gonçalves. Muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, Artur, e muito obrigado já pelo convite, em nome dos pais e em nome da Associação de Pais da Secção Internacional de Português.
Agora, Marco, vocês fazem uma pergunta, está um ponto de interrogação. No final, o seu filho fala português, tem idade para o primeiro ciclo, é como quem diz, de 6º a 3º, ou no liceu, ponto de interrogação. De maneira que, meus amigos, as portas estão abertas, eu quase ia dizer, inscrevam os seus filhos, não é? Porque a secção portuguesa é um ensino bilingue, uma educação bicultural, história, cultura e língua portuguesa e não só, e é um ensino público gratuito.
É isso mesmo. Eu tenho um filho já no colégio, ele está no Sanquiam, e eu posso partilhar a minha experiência de o que é uma secção internacional. Uhum. Além de ter a formação e o percurso que um aluno tem na Educação Nacional, eles têm, todos os alunos que passam numa secção internacional, eles têm entre 6 a 8 horas de aulas por semana de língua portuguesa e de história e geografia. O que quer dizer que para aqueles alunos que chegaram há pouco aqui, a França, a Paris, é uma boa integração no ensino normal, e para aqueles que já nasceram cá, é manter o contacto com a língua, manter esta experiência cultural, e além disso, mesmo que eles sejam muito novos e não deem ainda algum valor a isto, é que eles têm uma experiência com alunos de outras secções. Além da secção de português, existe a de alemão, inglês, árabe, espanhol e italiano, o que lhes permite uma experiência nesta idade que é muito boa.
É valorizante. Ora, agora faço a pergunta ao pai do aluno, ao senhor Marco Gonçalves. Significa que, é isso que eu digo nas secções internacionais, mas isto é válido para todo o ensino, tem que haver um acompanhamento dos pais, um acompanhamento que não se limita quando o aluno chega à casa, bom, diz, bom, agora vais lanchar e depois vais fazer os teus trabalhos de casa. E, bom, não basta isso, quer dizer, tem que haver, da vossa parte, eu falo da secção internacional agora mais especificamente, tem que haver, quer dizer, uma maior atenção, um maior acompanhamento da parte dos pais, não?
Sim, é um pouco, porque eles têm muitas horas, além de, como já disse, do horário que é normal no colégio e no liceu, o facto de terem entre as 6 e as 8 horas a cada semana
mais,
não lhes dá muito tempo em casa, o que é necessário é que os pais, e nomeadamente aqueles que falam o português, os acompanhem, porque há muitas atividades, alguns concursos, o que permite também de obter mais interesse e motivação tanto dos alunos como dos professores, e é necessário esse acompanhamento, esse seguimento, além do além da participação ativa também dos pais nas diferentes atividades. Portanto, é algo que, além de motivar, se eu posso dizer isso, além de motivar os alunos, vai também motivar os pais a terem mais contacto com a língua, a ter mais acompanhamento cultural com o nosso país. E mesmo para aqueles que já nasceram cá, permite de desenvolver ainda mais este conhecimento, tanto da história como da geografia do nosso país.
Sim, é importante, é tanto mais bom que nós sabemos, que a língua portuguesa pode ser um trunfo também profissional para os alunos, tanto mais que coladinho ao Lycée Collège Honoré de Balzac, vocês têm, também existe a escola, a École Nationale de Economia, precisamente, é ENC, onde há cursos de BTS, onde a língua portuguesa existe, há classe prépa, de maneira que se é um bom seguimento, podem ficar no mesmo boulevard BCR. Ora, o que é importante também é que nesta jornada de portas abertas, lembro, quarta-feira, 4 de fevereiro, assim é que é sábado próximo, a partir das 9 horas, os pais que queiram inscrever os alunos vão encontrar os professores, os representantes dos pais, porque a associação aí dos pais dos alunos podem dar uma grande ajuda para as pessoas verem quais são precisamente as condições de trabalho dos alunos, porque esse Lycée Collège tem condições bastante boas para que os alunos possam seguir uma escolaridade, não?
Sim, sim, claro. É um como sabem, é um este estabelecimento que é público, tem todas as condições, tem 4 ginásios, tem uma piscina, tem várias salas de informática, portanto, tem todas as condições para, e tem muitos professores que estão muito, muito motivados, têm uma qualidade de ensino que é muito, muito boa, portanto, e dá acesso a estas secções internacionais. Elas dão acesso tanto ao brevet internacional na Terroisième, portanto, no equivalente ao nono ano, como ao BAC internacional, que é também, se diz, o BFI, no final, portanto, no equivalente ao 12º ano. Algo que eu não disse ainda é que a cada ano o aluno tem o equivalente aqui e em Portugal, o que quer dizer que na 6º ele tem ele completa o 6º ano de escolaridade lá, na 5º o 7º, portanto, e assim até ao fim. O que pode ser interessante no fim, se o aluno estiver motivado para ir estudar numa universidade em Portugal ou naquelas que estão cá e que têm acordos internacionais. Portanto, hoje em dia, nós sabemos que o facto de alguém falar duas línguas, se calhar já não é o suficiente, mas ter esta experiência internacional e começar desde cedo, eu acho que é algo muito valorizante.
Sim, com efeito, e tanto mais que nas universidades portuguesas há pelo menos 7% de lugares que são unicamente para os jovens de origem portuguesa que vivem no estrangeiro. Marco Gonçalves, muito obrigado. Aliás, vocês têm um site, é uma associação de pais dos alunos da secção internacional portuguesa, estou a falar do Lycée Collège Honoré de Balzac, o site é APESIP. mas se vocês forem diretamente à procura da Associação de Pais dos Alunos da Secção Internacional Portuguesa do Lycée Collège Internacional de Paris, Honoré de Balzac, vão encontrar isso tudo. Esperemos precisamente é que os pais respondam afirmativamente e que os desloquem até lá, que se informem e que depois decidam da sua própria, daquilo que devem fazer relativamente ao futuro dos filhos. Jornada das Portas Abertas, 4 de Fevereiro, a partir das 9 horas, e é uma altura também para encontrar o Marco Gonçalves e outros membros da Associação de Pais, não?
Sim, sim, nós vamos lá estar. Além disso, podem nos contactar, como Arthur disse, nós temos um site, temos agora uma página no Facebook, uma página no Instagram. A ideia é de mobilizar os pais, é de ter cada vez mais alunos a candidatarem-se. Os dossiers de inscrição estão abertos desde o dia 16 de janeiro até o dia 7 de abril. Não hesitem em passar no colégio ou no liceu no próximo sábado, mas não hesitem também em nos contactar.
Com efeito. Marco Gonçalves, muito obrigado e esperemos que os pais respondam precisamente a esse vosso apelo, mas também a dizer, meus amigos, é do todo o vosso interesse, porque é o interesse dos vossos filhos, e fica aqui também um pequenino recado para as associações e os portugueses que moram do outro lado do Boulevard Periférique, que passar por baixo do Periférique não custa nada a ninguém. Marco Gonçalves, muito obrigado e até uma próxima então.
Ok, muito obrigado, Arthur.
Obrigado.
Deus, bom dia.
Elizabeth Monteiro Rodrigues, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, pour parler de Miyakoto, on pourrait faire une émission entière. Hein. Mais enfin, en résumé, Miyakoto, né en 1955, écrivain, poète, journaliste, biologiste également, enseignant. Bon, on pourrait continuer comme ça. Il faut dire que c'est quelqu'un qui s'est engagé. Il était tout jeune, aux côtés du Frelimo, dans la lutte pour la libération du peuple mozambicain, du joug colonial portugais. Il a été journaliste. À un moment donné, bon, on pourrait continuer comme ça, mais ce qu'on pourrait dire est que c'est que finalement, Miyakoto aujourd'hui, c'est un des plus grands noms de la littérature lusophone, et c'est quelqu'un justement qui a fait avancer le portugais, mais au même temps qu'il a mis en valeur, en exergue, le Mozambique, ses traditions. Et quand je parle de tradition, c'est des traditions orales et pas seulement la façon de vivre, les expressions. Mais maintenant, je me permets, Elizabeth Monteiro-Rodrigues, de faire une petite citation en portugais. J'aimerais bien que vous disiez quelque chose là-dessus. Alors, je cite, hein, « Somos o que somos porque somos os outros ». On peut dire que cette phrase résume un petit peu la vision et l'écriture de Miyakoto et tout ce qu'il raconte.
Oui, parce que c'est cette phrase en fait donc explicite donc la multiplicité des êtres qui nous composent et notamment les différentes composantes de la société mozambicaine et du Mozambique. Mmh.
Alors, ce livre, Le chasseur d'éléphants invisibles, il s'agit de 26 nouvelles. Alors, 26 nouvelles, on peut dire que finalement, bon, ça, on parle de la Covid, mais beaucoup, 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 beaucoup plus que ça, dans la mesure, la thématique de ces nouvelles, bon, elles sont assez diversifiées, mais ça n'empêche quand on lit un certain nombre de nouvelles. Nouvelle, par exemple. Quand on parle avec le vieil homme qui est visité par des gens qui sont habillés, je ne sais pas trop comment, avec des vêtements où ils sont couverts de partout, même les chaussures, et pourtant on est en plein de brosse, s'il s'agit de la Covid-19. Donc ça veut dire que c'est un décalage, il démontre le décalage qu'il y a entre la réalité de la vie quotidienne et après, bon, les gens qui viennent de la grande ville, du gouvernement qui prennent une décision, mais qui tiennent absolument pas compte de la vie des gens sur le terrain.
Oui, exactement. En fait, dans ces nouvelles, en fait, elles ont trait à l'actualité. Elles concernent toutes des questions d'actualité. Et là, peut-être, on peut refaire le pont avec le fait aussi qu'il ait été journaliste. Et en fait, ce qui est assez étonnant et assez formidable dans ces nouvelles, c'est qu'en fait, en 3 pages, donc Miyakoto réussit donc à faire exister donc des hommes et des femmes dans toute leur complexité. Et effectivement, on est dans des situations, en fait, pour dénoncer certaines inactions politiques ou des contradictions ou l'absurdité, en fait, il y a beaucoup d'humour et de drôlerie. C'est ce qui caractérise nombre de nouvelles, comme celle que vous citez, par exemple, ou encore celle où le chasseur ou un chasseur est confiné dans un parc naturel.
Oui,
donc, c'est pour mieux souligner, en fait, l'absurdité, en fait, de certaines situations et notamment dans ce qui a pu se passer tout récemment avec l'épidémie de Covid-19, effectivement.
Alors, justement, le chasseur, il est isolé, il n'y a personne autour. Il dit qu'il faut garder une distance. Finalement, la distance, c'est les gens qui sont allés voir pour donner des conseils. Des conseils, bon, que c'est très bien dans les villes, mais, dans la brousse, à la campagne, bon, ça n'a pas raison d'être. Mais c'est étonnant aussi, c'est quand des Européens vont construire un observatoire des oiseaux. Alors, chose étonnante, c'est des oiseaux européens qui passent par là. Bon, c'est encore un décalage entre la vie des gens, parce que, d'ailleurs, la personne en question, qui a réussi à se faire embaucher, malgré qu'il avait des problèmes de vue, là, on revient. L'histoire de la santé, tout est lié, finalement, avec... Écoute, il fait la liaison avec tout un tas de choses. Mais, donc, cette personne a été embauchée pour être tout en haut de cette tour, pour... Regardez s'il y avait des oiseaux européens qui passaient. Comme si la réalité, la vie, les oiseaux du coin n'avaient aucune importance pour ces scientifiques européens.
Oui, ben là, il y a une dimension donc, tout à fait politique avec, évidemment, on pense à la migration et à la question des migrants, en fait, par le biais de cette image et de cette utilisation donc, de ces oiseaux. Où les personnes, donc les Blancs, qui viennent étudier uniquement ces oiseaux qui ne seraient qu'européens, en fait. Voilà.
Alors, parlons de... Parce que dans ces 26 nouvelles, il y a un certain nombre de... Il y a la problématique de la femme au Mozambique, la violence, et pas seulement... Et ça vient en tête la nouvelle La Robe Rouge, un exemple. Bon, avec tout ce qui se passe, entre les militaires, entre les terroristes, etc., on peut dire que en règle générale, la situation de la femme au Mozambique, elle est vraiment déplorable. C'est incroyable ce qui se passe.
Alors, je dirais qu'il n'y a pas qu'au Mozambique.
Non, hein. Tout à fait, oui, non, mais même ici en France, il y a des problèmes énormes.
Et effectivement, mais cette question, de toute façon, de la condition des femmes et de l'histoire des femmes, elle est présente, en fait, dans toute l'œuvre de Mia Kout, en fait, depuis ses tout premiers romans et dans ses nouvelles. C'est vraiment quelque chose qui, effectivement, est au cœur et central dans son œuvre. D'ailleurs, il en parle avec une très grande finesse et une très grande sensibilité.
Et disons que ce livre-là, le chasseur d'éléphants invisibles, c'est une rupture un petit peu avec tout ce qu'il a écrit, parce que la plupart dernièrement c'était des romans, il s'agit pas de la poésie, rien du tout. Mais on dirait que avec ce livre-là, Mia Kout fait le point de la situation actuelle au Mozambique, mais plus au-delà du Mozambique, finalement c'est tout ce qui est en train de changer dans les sociétés. Et lui, il va chercher des exemples concrets dans la société mozambicaine, non?
Exactement, oui, c'est ça. En fait, ce livre, c'est vraiment une sorte de geste politique, en fait. Ça permet, en fait, de saisir tous les débats actuels, en fait, qui traversent les sociétés, et donc les questions, effectivement, de l'écologie, des femmes, du politique, et certaines nouvelles sont aussi beaucoup plus intimes, un peu plus mélancoliques ou métaphysiques. Et c'est vrai qu'il a réussi ici, je trouve, à très bien cerner toutes ces questions, et avec, comme je le disais, avec une grande finesse et une grande sensibilité. C'était un vrai bonheur d'ailleurs de traduction, parce que justement, donc, de restituer toutes ces voix de ces différentes personnes dans toutes ces nouvelles. Parce que ce sont vraiment des voix qu'on lit et des voix qu'on entend.
Alors, malgré il s'agit de sujets sérieux, mais Mia Kout, il arrive, disons, comment dire, être ironique et plus que ça, parce que finalement il y a l'humour dans sa façon d'écrire. C'est peut-être le coup d'avant. Ça nous aide davantage à réfléchir aux choses et voir la réalité. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez.
Oui, tout à fait. C'est exactement ça en fait. Sous le prisme de cet humour et cette ironie, vraiment, il parvient justement à nous émouvoir. En fait, ce sont des nouvelles en fait où on rit, on pleure et on réfléchit en même temps. C'est tout à fait remarquable. Oui.
Tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y avait des nouvelles qui étaient un petit peu plus intimistes. Vous pourriez donner un exemple?
Oui, je pense à celle qui s'appelle l'accouchement posthume, une sorte de récit initiatique d'un homme en fait qui rencontre un mystérieux passeur qui le fait passer de l'autre côté dans un autre monde, si on peut dire.
Mais il y a une nouvelle, justement là on revient au terrorisme, où les gens se sont réfugiés dans une maison qui n'a pas de toit, qui n'a pas de fenêtre. Et justement, il y a une femme qui est en train d'accoucher. C'est quoi? C'est un genre de parabole? Comment est-ce que vous avez compris ça?
Parabole.
Je ne sais pas. Je veux dire par là, bon, il a voulu dire quelque chose. Parce que finalement, bon, tout le monde était là, personne ne pouvait bouger. Hein. Autrement, bon, les terroristes, les militaires, on ne sait pas trop exactement si c'était des militaires, de terroristes, on n'a jamais su. Mais toujours est-il qu'il ne fallait pas bouger. Ça n'empêche que là, les femmes, ils ont fait la place pour que le bébé puisse naître. C'est peut-être que je ne sais pas, j'ai pas.
Oui, je pense qu'il va y avoir forcément, quelque chose comme l'espoir, enfin en tout cas la vie, c'est-à-dire qu'il y a cette mort qui est là permanente, que ces hommes pourraient en plus éventuellement vouloir tuer l'enfant, mais que ces femmes s'unissent et malgré tout elle résiste et donc le bébé naît et donc c'est une métaphore de la puissance de la vie.
Oui, tout à fait. Et en même temps, c'est la liberté, parce que les gens n'avaient pas le droit pratiquement d'éternuer, n'avaient le droit de rien faire parce qu'ils pouvaient pas bouger. Mais c'est une façon de dire, bon, arrachons nos chaînes, ce qui nous enchaîne un certain nombre de choses. Elisabeth Monteiro-Rodrigues, merci. On a donné qu'un petit aperçu, parce qu'en plus, c'est des nouvelles très courtes. Hein. C'était très courtes, des choses extraordinaires. On passe d'un horizon à un autre, d'une planète à une autre. Mais ça n'empêche ça suit. Il y a une suite logique. J'ai raison, j'ai tort, une suite logique dans les nouvelles.
Oui, il y a une forme de c'est un peu comme des photographies en fait, comme des photographies d'un instant d'une société ou d'un moment avec toutes ces hommes et ces femmes qui nous parlent, oui.
Voilà, donc Miyakot, le chasseur d'éléphants invisibles, édition Chandaigne, traduction Elisabeth Monteiro-Rodrigues. Alors j'ai vu traduction du portugais, Mozambique. Pourquoi avoir mis Mozambique?
Parce que Miyakoto est un écrivain mozambicain et que donc le portugais du Mozambique est une langue à part entière.
À part entière.
Et comme on dirait le portugais du Brésil.
Tout à fait. Et d'ailleurs, Miyakoto, il a beaucoup, beaucoup apporté à la langue portugaise. Bon, pourvu qu'il continue à travailler comme ça. Elisabeth Monteiro-Rodrigues, merci. Donc, et je peux dire à nos auditeurs que le livre, il se lit facilement et une fois qu'on commence à lire, on n'a plus envie de le lâcher. Merci.
Merci beaucoup.
Merci bien. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Radio Alpha. Eh bien, maintenant, on va au théâtre, ni plus ni moins, au sujet de la pièce Le Songe de Bernadette, par la compagnie Entre les Lignes, une comédie fantastique à découvrir, où ça, au théâtre du Roi René, Paris 11e. Renat Ribeiro, bonjour, boa tarde.
Bonjour, boa tarde.
Boa tarde, vamos falar talvez em português.
Pode
ser. Renato Ribeiro assina a encenação desta peça, mas Renato Ribeiro, é verdade que anda sempre de um lado para o outro, entre Portugal e a França, entre Paris e Lisboa?
Olha, isso mesmo, porque a minha vida faz com o meu trabalho no teatro enquanto encenador, diretor e produtor. Faz que tenho tanto trabalho cá em Paris como lá em Lisboa. Aliás, amanhã às 14h já vou para Lisboa.
Ora, quando se fala de Lisboa, bom, eu faço a relação com o Teatro Nacional de Dona Maria II e o atual diretor do Festival de Avignon, Tiago Rodrigues, porque trabalhou com o Tiago Rodrigues.
Exatamente, exatamente. Tive o prazer imenso de trabalhar ao lado do Tiago Rodrigues durante 4 anos, enquanto ele era diretor do Dona Maria II. Onde eu fazia uma parte de tradução e outra parte era o coaching dos atores em língua francesa para eles apresentarem o espetáculo português em língua francesa cá em Paris, quando eles eram convidados.
Ora, Renato Ribeiro, bom, eu vou utilizar uma expressão em francês, on dirait que vous faites le grand écart. Por um lado, a série de televisiva Scène de Ménage, por outro lado, a longa-metragem de António Marol, Voyage en tête étrangère. Sinceramente, são duas coisas completamente opostas, não?
Ah, completamente, e até pode pôr uma terceira, diga, que foi As Linhas do Wellington em Portugal com o Raul Ruiz. São três maneiras de ter uma abordagem completamente diferente do meu trabalho. Por um motivo, é que eu sou muito curioso, gosto das experiências, e o meu trabalho, fora de ser encenador, é de ser ator, e enquanto ator, quando a proposta é engraçada, ou interessante, ou cheia de história, como As Linhas do Wellington, e a honra de trabalhar com o Raul Ruiz antes dele morrerem, isso tudo faz que as minhas escolhas no meu trabalho são escolhas do coração.
Ora, eu falei de Leçons de Bernadette e quando liguei para si, bom, disse que queria fazer uma entrevista, fez-me logo a pergunta, mas sobre que peça? Com efeito, para além de Leçons de Bernadette, temos ainda Belles Amies, sem esquecer Molière, le Dernier Impromptu.
Exatamente, e até pode falar também no mesmo teatro onde está a apresentar Leçons de Bernadette, O Sonho de Bernadette, às 19h, logo antes do sonho, há uma peça que chama-se Geek, que é sobre o meio dos jogos vídeos, que é uma comédia bastante engraçada, o público farta-se de rirem, e é no mesmo teatro às 19h. É verdade que eu sou um bocadinho, como diz o francês, não sei se a palavra é igual em português, bulémico. Não consigo parar, mas tenho essa energia de estar a fazer vários projetos ao mesmo tempo para me dar o sentimento de estar vivo. Faz parte da minha vida de eu ter esses projetos todos, não consigo ter só um.
Mas Renato Ribeiro, é importante, geralmente no teatro, eu digo, é um bocadinho como a rádio é a voz, portanto para ouvir rádio é porque queremos ouvir a rádio, quando vamos ao teatro é porque vamos à procura de qualquer coisa, estamos ali em frente, os atores estão à nossa frente, os atores estão a olhar para nós sem nos ver, é o caso de dizer, mas temos uma relação direta com a cultura e vocês, nós todos sofremos com a Covid, onde foi dito que a cultura não era importante, mas enfim. Bom, ora, voltemos aos Sons de Bernadette. Ora, eu tive a ocasião de dizer que é uma comédia fantástica. Talvez, resumidamente, bom, não sei, eu vou avançar alguma coisa. Arrivant sur la fin de sa vie, Bernadette se demande comment réussir à réunir ses enfants qu'elle abandonnait quand elle était plus jeune pour mener une vie d'artiste aux quatre coins du monde. Ora, precisamente, lors d'un songe, ele trouve um stratagème. Não vamos dizer o qual, evidentemente, Renato Ribeiro, mas podemos dizer que é uma história de um encontro improvável de um irmão?
É o encontro improvável de um irmão com uma irmã, de dois pais diferentes, que nunca conheceram a mãe. E no final da vida dela, ela vai ter um sonho, onde ela vai conseguir fazer de maneira que o irmão encontre a irmã e que até pode ser que os dois vão encontrar a mãe.
Mas no meio disso tudo também há um interesse no que diz respeito aos filhos, porque, bom, há uma herança no meio disso tudo.
É isso, há uma herança e é o que faz parte da comédia, é que quando se fala de dinheiro, vem logo a gente toda, as famílias, até as mais desconhecidas, chegam logo. E é isso a comédia, quer dizer que finalmente essas crianças, claro que foram abandonadas pela mãe, mas ao mesmo tempo nunca fizeram nada para ver se encontravam. E quando se fala de dinheiro, bem logo. Sim. Mas isso já faz parte do sonho.
Sim, sim, mas há uma condição. E essa condição não vai ser fácil de aceitar, porque isso vai gerar um certo número de incompreensões e estudo. Isso é a peça, não é? Porque eles, para terem direito à herança, têm que...
viver juntos um ano na casa dela.
O que isso implica, evidente, quando se fala de comédia e por aí fora, significa que, bom, nos diálogos, vamos, como diz, que é uma comédia, vamos rir, porque, bom, todo o trabalho, eu não disse, mas há que referir, não temos que falar da autora, que é Antoinette Cachaner, porque quando o Renato Ribeiro leu a peça, disse, bom, tenho que pegar nela.
É mesmo isso, quando recebo vários textos, ponho-me a ler. Isso acontece, imagens na minha cabeça, é que essa peça é para mim. Se não acontece nada, é que essa peça não é para mim. E neste caso, quando eu li, vi logo o sonho fantástico. Aliás, você disse que é uma comédia e que as pessoas vão rir. Não é bem isso. É uma comédia, claro, mas também há momentos assim muito emocionantes. E como é uma comédia fantástica, tem um universo que é bastante estranho, mas no bom sentido da palavra. Faz que as pessoas estão mesmo com os olhos grandes abertos, porque acontece na peça coisas fantásticas mesmo, que não dá para rir, dá para sorrir, e estarem tal crianças a verem um conto de fadas.
Mas ao mesmo tempo obriga-nos a refletir sobre aquilo que nós fazemos.
Ai,
as,
claro.
As relações que, familiares e tudo, não?
São duas coisas que eu queria abordar. A primeira era as relações dos pais com os filhos. Isso era a primeira. Ao final da vida dos pais pode acontecer sempre problemas e até às vezes os filhos esquecem que os pais também foram jovens. E isso faz-me bastante pena. O segundo motivo é de falarem numa coisa bastante importante, que é o final da vida das pessoas. E o que acontece é que a maior parte das vezes o final da vida das pessoas são postas fora da casa delas e vão para sítios que não são, eu acho, adaptados para essas pessoas de final de vida. Só se eles precisam mesmo de tratamentos bastante fortes. Isso é normal, irem para hospitais ou casas de pessoas de idade. Fora disso, quando a pessoa é de idade e está assim já um bocadinho, como é que eu posso dizer? É enlouquecer, mas sabe, aquela coisa linda, já estão no posso dizer assim, no sonho delas de fim de vida, acho que a gente deve manter essas pessoas em casa, porque é a rotina deles, é os hábitos deles. E se você tira uma pessoa com 90 anos que ainda está boa do corpo e que está assim um bocadinho de cabeça já a falar sozinho ou isto ou aquilo, para pô-la noutro sítio estranho é muito perigoso. E às vezes essas pessoas é assim que elas morrem muito mais depressa.
Mas...
E essa peça também é para isso, para dizer às pessoas... mantenham os seus pais em casa o mais possível, porque é assim que eles podem ficar em vida muito mais, não é, de os pôr em outros sítios. Claro que na vida hoje, com os nossos trabalhos e tudo o que a gente tem e esta pressa que toda o pessoal anda sempre a correr, a gente tem pouco tempo para tratar dos pais, mas mesmo assim às vezes é melhor ter serviços ao domicílio do que fazer esta escolha de pô-los dentro de condomínios.
Sim, com efeito, eu tenho o hábito de dizer, os lares da terceira idade são a antecâmara do cemitério.
É exatamente
isso mesmo. Oh, Renato Ribeiro, bom, é importante que tenha focado esse aspecto porque faz parte da nossa vida e é precisamente, bom, nada melhor, meus amigos, de que irem até ao Teatro du Roi René. A peça é representada da quinta ao sábado, às 20h45, no Teatro du Roi, Teatro du Roi René, dizia eu, 12 rue Édouard Lecroix. Quais são os metros mais próximos, Renato?
Bom, é logo a 50 metros, é o metro Parmentier, na linha 3.
Parmentier, da linha 3. Renato...
E também se pode ir a pé bastante facilmente, são 10 minutos a pé da Place République.
Então pronto, precisamos de andar também, também nos faz bem a articulação e a circulação.
É isso mesmo, para a saúde também é bom.
Também. Renato Ribeiro, muito obrigado e voltaremos a falar do vosso trabalho, porque eu queria relembrar atualmente quem é que está à frente. Bom, para além do trabalho que eu tinha anunciado do Renato, temos o São Quatre, Teatro de la Ville, Teatro de Rond-Point, Carreau du Temple. São todos portugueses ou de origem portuguesa, de maneira que é para dizer que os portugueses.
Neste momento, na cultura francesa, há bastante portugueses que estão a ter ofícios de coisas importantes e também é necessário falar que no Ministério da Cultura Francesa temos vários assistentes da ministra que são portugueses neste momento. Ela tem 4.
4. Bom, Renato, eu vou esperar que regresse de Lisboa, precisamente, e teremos a ocasião de falar nisso, e o convite aqui fica, quando puder. Isso está, provavelmente será no mês de março, eu penso.
É, exatamente, eu vou chegar a Paris a partir do dia 6 de março e é com todo o prazer de estar outra vez consigo.
E aqui nos estúdios, presente.
Ai, sim, sim, agradecia bastante.
Renato Ribeiro, muito obrigado e boa viagem. E,
obrigado. E assim até no seu estúdio também podíamos falar do que eu ando a fazer lá em Portugal, no meio do teatro e no meio da língua francesa, com uma abordagem pelo teatro, ando nas escolas todas portuguesas, a ensinarem aos professores portugueses como é que se pode ensinar a literatura francesa aos alunos.
Através do teatro.
Através do teatro, obviamente.
Estamos aqui para isso, Renato, muito obrigado e aguardamos então o seu regresso no mês de março aqui a Paris. Muito obrigado.
Muito obrigado e um resto de bom dia.
Muito obrigado. E agora vamos deixar Paris, vamos até ao Alentejo, né? Mais nem menos. Cantadoras de Paris, Cas Balmino, muito boa tarde e obrigado por estarem em direto connosco.
Boa tarde, Artur, e obrigado também pelo convite, caros auditores, auditoras, espero que estejam bem. Bom domingo a todos.
Ora, eu estou a falar com o ensinador, estou a falar com alguém que começou a fazer um trabalho sobre a viola campanista, vamos ter que falar nisso um dia deste, e atualmente está a fazer uma tese de etnomusicologia na Sorbonne, acho eu. Ora, havia uma data, a data essa era pura e simplesmente na terça-feira, dia 31 de janeiro, uma audição encontro do Canto Alentejano, e estou precisamente a abrir portas para pessoas que queiram participar no Rancho Cantadores de Paris. Bom, precisam de cantar, bom, como dizem os franceses, justa. Mas não é obrigado a falar português. Ora, infelizmente, a data 31, acho que há pessoas que já se tinham inscrito e que vamos ter que dizer, há que esperar, não é?
Sim, há que esperar 2 semanas. Afinal, por causa das greves dos transportes esta semana, Paris vai estar num caos, e nós decidimos então adiar a nossa audição para dia 14 de fevereiro, por isso vamos adiar de 2 semanas, vai ser no mesmo lugar, à mesma hora, por isso vai ser na zona de 19 anos, por volta das 20 horas, que é o nosso horário e o nosso espaço onde ensaiamos todas as terças-feiras. A ideia é fazer uma audição que vai ser basicamente um ensaio. As pessoas não vêm para cantar para a gente, elas vêm para cantar connosco, e no final, consoante as vozes que nós ouvimos e consoante o interesse deles, vamos negociar entre nós se os dois lados gostariam de continuar a trabalhar juntos. E basicamente é isto, é uma ala aberta.
Não é necessário falar português, e aliás, ao princípio precisamente do Rancho Cantadores de Paris, vocês tinham quantas nacionalidades? 4, 5, quantas eram?
Sim, exato, é mais ou menos isso. 4, 5, franco-argelino, congo-italiana, russa, francês, muito francês, portugueses alguns, luso-descendentes também, e agora já temos uma pessoa do Madagascar. Nós não vimos muito o nosso grupo como já foi essa perspectiva dos portugueses navegadores em que cruzavam outras culturas. Nós não vemos muito esse espírito. É basicamente pessoas que vieram por causa de várias peripécias na vida, vieram acabar em Paris, que é uma vida com muito movimento, e o que nos une realmente é o facto de nos encontrarmos às sextas-feiras. Aceitamos todas as nacionalidades porque o nosso método é transmitido em francês. O único momento em que falamos português é no momento de cantar, e cantar é mais fácil do que falar, porque falar é mais complicado, né? Temos que ser mais fluentes na língua. Cantar é sempre a mesma moda, voltamos àquilo e vamos trabalhando pouco a pouco as pronúncias, mas claro, aceitamos as pronúncias mais variadas. O objetivo é cantar alentejana.
Ora, há que ver que trata-se de um canto polifónico. Não tive a ocasião de entrevistar alguém, porque houve aqui um concerto. Aliás, vocês já tinham atuado com eles, não é? Tenho uma falha da memória com a Sofia Costa, que vocês já tinham feito.
Sim. O Encanto.
O E maiúsculo e o C maiúsculo igualmente. Encanto. Precisamente a questão do canto polifónico, porque, bom, não é só em Portugal, noutros países também. Estou a pensar, por exemplo, nas vozes búlgaras, estou a pensar também nos cânticos na Sardenha. De maneira que isso é, digamos, os cantos polifónicos são mundiais. E parece que são aqueles que estão mais próximo da terra, estão aqueles que estão mais próximo da vida cotidiana das pessoas, é o meu olhar. Será que tenho razão ou não?
Eu acho que sim, acho que cantar, há um professor que se chama Leonard Bernstein, da Universidade de Harvard, que é um grande maestro, e ele dá uma aula de fonologia a explicar que a partir do momento em que as mulheres cantam com as crianças e com os homens, já há uma polifonia, porque há um espaço de uma oitava, e essa foi a primeira polifonia. E basicamente, se temos um pai a cantar com o filho e com a mulher, já estão a cantar em polifonia. O que estas músicas populares que trouxeram até hoje, e daí toda a sua beleza, é que são polifonias que vão se complexificando, fazendo mais vozes, cantando em terceiras, em quintas, em sétimas, coisas muito, muito estranhas, mas que acabam por nos hipnotizar. E efetivamente, existe desde a África do Sul até a Mongólia, ou seja, há várias formas de fazer polifonia. E Portugal é um país riquíssimo em polifonia, exatamente.
Eu de agora também estou a pensar na Córsega, mas enfim. A música que passamos é um extrato de um álbum, Ensemble, é mais do que um álbum, porque bom, tem um livreto bastante importante, tem ilustrações interessantíssimas também, mas resumidamente, peço desculpa, Carlos Balbino, apresentar esse vosso trabalho que foi realizado também em colaboração com grupos em Portugal, no Alentejo concretamente, não foi?
Sim, se os cantadores de Paris podem, para alguns puristas, estar a desvirtuar o canto alentejano, a nossa ideia era precisamente provar que nós éramos capazes de cantar com outros grupos de canto. Então fomos para o Alentejo, convidámos 16 grupos e artistas e fizemos aquilo que a maior parte dos grupos do canto alentejano tem dificuldade, que é de se adaptar ao estilo das sub-regiões que existem no Alentejo. E é aquilo que está aí. Está aí a prova do canto alentejano contemporâneo, com toque de Paris, porque temos alguns solistas com a pronúncia de Paris, e depois também temos as vozes fortes do Alentejo, cada um no seu estilo local. E aí está aí um contributo que colaborou com imensa gente, desde a fotógrafa Ana Baião, ao prefácio escrito pela professora fundadora do Instituto de Etnomusicologia, a Salva El Shalom Castelo Branco, que hoje em dia é a minha diretora de tese de etnomusicologia. Temos a Ana Turcina, que fez as ilustrações, e temos o apoio da Embaixada de Paris, da Direção Regional da Cultura do Alentejo e da Casa do Canto de Serpa, que hoje em dia é o Museu do Canto. Ou seja, são instituições que nos deram alguma legitimidade e apoiaram o nosso projeto, e escrevemos então esse livreto de 160 páginas em português, para os portugueses que não conhecem ainda bem o canto alentejano, e em francês, porque nós estamos em Paris e queremos partilhar isto com os nossos amigos daqui. Os nossos amigos, os nossos familiares que vivem aqui.
Ora, portanto, a audição, o encontro foi adiada para o dia 14 de fevereiro, no mesmo sítio, entre as 20 e as 22 horas, acho eu, mas a melhor maneira para se inscrever e para ter todos os detalhes é ir aqui ao site da Revolucide ou Cantadores de Paris, o que é que é melhor?
Sim, temos a página Facebook Cantadores de Paris, simples e eficaz, e depois temos o e-mail da nossa associação, que é Revolucide, no plural, no plural, quer dizer sonhos lúcidos, revolucide@hotmail.com. Por isso, estou à vontade para se inscreverem, é gratuito. Para quem fica preocupado com o preço anual, ficam já sabendo que é entre 25 a 40 euros, por isso, para quem tem desconto é 25, para quem trabalha de forma efetiva, contribui com 40 euros à associação, e o objetivo é formar vozes, formar personalidades para subir ao palco e cantar em polifonia aquilo que nós mais gostamos.
E vocês, aparentemente, agora estão à procura mais de homens do que mulheres, é isso?
Nós preferimos os homens, porque temos excelentes mulheres, mas está-nos a faltar um bocado os graves, mas se as senhoras também e as moças quiserem vir cantar com a gente, também são bem-vindas, claro. Nós não controlamos o fluxo de... Ou seja, não vamos rejeitar ninguém por uma compensação de sexos, simplesmente gostaríamos de ter mais vozes graves. E há uma coisa genial no grupo agora, é que o grupo agora já não sou só eu que estou à frente, somos três pessoas, por isso é um grupo que está a ser cada vez mais autogerido, e nos dizem que no novo ensaio vocês vão aprender a cantar a alentejana com pessoas que nem sequer falam português.
Bom, Carlos Balbino, muito obrigado. E a propósito de Alentejo, temos a emissão está a terminar. Um obrigado ao Manuel Alexandre pela assistência que me deu já praticamente a duas horas esta parte. É com o Duarte, que vai estar na Folle Journée Festival em Nantes, dias 13 e 4 de fevereiro, ter um alentejano que canta, bom, um fado, parece uma moda. Dá para refletir, de maneira que Duarte talvez seja um exemplo daquilo que se pode fazer com o canto alentejano, não, Carlos?
Eu acho que sim, eu acho que o canto alentejano dá para muita coisa. Estamos numa época em que as pessoas se interessam por vários géneros musicais. Não há problema nenhum em misturar. Aliás, se as culturas, as tradições existiram até hoje, é porque se foram renovando. Por isso acho boas essas brincadeiras saudáveis e não faz mal a ninguém.
Ah, aí vamos nós. Duarte, não inventes, e até para a semana, espero eu.